Demain, l'espace public, ce sont des rencontres mensuelles proposées à Montpellier par la Maison de l'architecture Occitanie-Méditerranée, l'ASAT, zone artistique temporaire, et Transat, programme d'urbanisme culturel. Architectes, urbanistes, philosophes, anthropologues viennent parler de ce qui se fait déjà et de ce qu'on peut imaginer pour rendre nos villes plus vivables, mais aussi plus vivantes et vibrantes. La première rencontre, demain l'espace public hospitalier, a eu lieu le mardi 13 septembre 2022 avec Chantal Desquemines, architecte urbaniste, auteur d'un manuel pour une hospitalité de l'espace public, et Mathilde Tournol-Duclos, architecte pour le projet singulier mené dans l'ancienne gare de Lunel. Voici l'enregistrement intégral de cette soirée où vous entendrez successivement Damien Vieillevigne, architecte urbaniste et président de la Maison de l'architecture Occitanie et Méditerranée, Pascal Lebrun-Cordier, directeur artistique de la ZAT et de Transat, Sophie Leron, directrice de la stratégie de Montpellier 2028, Agnès Robin, adjointe à la culture de la ville de Montpellier, enfin les architectes Chantal Desquemines et Mathilde Tournol-Duclos.
Alors bonsoir à tous, à toutes et à tous. Merci d'être venus nombreux à cette première rencontre de notre cycle de conférences « Demain, l'espace public ». Alors ce cycle de conférences, on l'a monté dans le cadre de la candidature de Montpellier pour l'élection à la capitale de la culture européenne en 2028. Donc nous, on est très heureux à la Maison de l'architecture de pouvoir initier ce cycle avec ZAT, Transat et Pascal Lebrun-Cordier. Ça correspond à vraiment une envie, une ambition en tout cas que porte la Maison de l'architecture d'ouvrir nos champs d'action et de compétences à d'autres thématiques que celles de propre à l'architecture en elle-même, c'est-à-dire de s'ouvrir à des enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux. Et en ce sens, je pense que ce cycle répond en partie à cet objectif parce que, à travers 4 conférences, donc une par mois jusqu'en décembre, on va traiter de cette question de l'espace public dans ses multiples formes. On va commencer par l'hospitalité avec Chantal Desquemines qui nous a fait l'amitié de venir et puis avec Mathilde Tournol-Duclos aussi qui va nous parler de cette question de l'hospitalité, notamment à travers ses travaux à Lunel. Et donc c'est pour nous vraiment à la fois quelque part un engagement et une vraie volonté d'ouvrir nos champs d'action et on est très heureux aussi de travailler avec Pascal. Pascal, tu veux dire deux mots aussi sur ce cycle?
Alors, on avait prévu de donner la parole avant à Sophie Leron et Agnès Robin.
C'est toi qui donneras la parole à Sophie Leron et Agnès Robin,
bien sûr. Après, je dirai un mot sur la ZAT.
Très bien.
Donc, j'appelle Sophie Leron, qui, au titre de Montpellier 2028, va nous dire un mot d'introduction.
Merci à toi, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je suis très heureuse d'être là pour le lancement de ce cycle et ce cycle de conférences que vous nous avez proposé, cher Damien Vieillevigne, au nom de la Maison de l'architecture Occitanie-Méditerranée et Pascal Lebrun-Cordier, dans la suite de l'ASAT et l'accompagnement du cycle urbain de l'ASAT qui s'appelle désormais Transat, qui a vocation à se déployer dans les années à venir et nous l'espérons en 22, 23, 24 jusqu'à 28 avec une édition monumentale pour surtout le territoire de la candidature en 2028. Je pense que ce sera un des aspects séduisants de notre candidature. Merci beaucoup à Chantal Desquemines et Mathilde Tournol-Duclos de leur présence. Je crois que voilà, en choisissant d'évoquer la question des espaces publics hospitaliers, vous êtes au cœur des sujets qui sont les nôtres au sein de la candidature Montpellier 2028. Où être ensemble aujourd'hui? Comment laisser place aux usages, qu'entendons-nous par hospitalité? On va essayer avec vous d'y répondre collectivement sur le territoire, à la fois en questionnant, mais à la fois aussi en faisant, parce que faire parfois, c'est permettre d'expérimenter, et expérimenter, ça fait avancer les choses. C'est le lien tout trouvé directement, évidemment, avec la preuve par 7 qui m'est chère, et c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment hâte de vous entendre toutes les deux ce soir. Merci.
Merci Sophie. On va donner la parole à Agnès Robin, qui est adjointe à la culture de la ville de Montpellier. Bonsoir Agnès.
Bonsoir Pascal. Merci, un grand merci à vous et je suis ravie ce soir au nom du maire Mickaël de la Fosse, maire de la ville et président de la métropole, de vous accueillir ici dans ce lieu. J'en profite pour saluer immédiatement mes collègues ici présents, Boris Bélanger, élu adjoint et élu au patrimoine, délégué au patrimoine, ainsi que Zita, Chelvis Sandin, qui est conseillère départementale, donc au conseil général. Merci de leur présence. Je vous remercie d'être au rendez-vous de cette première rencontre, de ce cycle de rencontres et de conférences autour effectivement de la notion d'espace public. Demain, l'espace public, qui est effectivement un cycle de rencontres proposé par, comme ça vous a été dit, par la Maison de l'architecture Occitanie-Méditerranée. Donc un grand merci à vous, Damien Vieillevigne, d'avoir proposé ce beau projet. Merci Pascal Lebrun-Cordier d'accompagner également cette démarche de cycle, d'organisation, de coordination, parce que en effet c'est un sujet qui va mobiliser au-delà de la candidature, ce qui est déjà énorme, candidature à la capitale européenne de la culture, c'est un sujet qui va aussi mobiliser évidemment la ZAD, puisque c'est le sujet de la ZAD d'une manière générale, telle qu'elle fut conçue à l'origine et telle qu'elle se redéploie aujourd'hui grâce à votre action et votre énergie. Et merci vraiment Pascal pour cela. Donc c'est une notion qui nous est vraiment chère dans la politique que nous souhaitons déployer, évidemment politique culturelle, mais politique culturelle telle qu'on la conçoit, telle qu'on l'imagine dans l'espace urbain, c'est-à-dire l'urbanisme culturel, hein, si je reprends les termes. Et donc nous sommes ravis, évidemment, et je suis très heureuse de vous accueillir, en particulier mesdames, et j'aurai aussi beaucoup de plaisir à vous entendre dans quelques instants. Je dirais simplement que ces cycles de rencontres qui s'annoncent inspirantes, c'est comme ça que ça avait été effectivement présenté et que ça l'est encore aujourd'hui. J'espère que ce sera de nature à nous permettre de trouver des solutions inspirées pour organiser notre espace public avec en accompagnant toutes ces aménagements urbains, cette rénovation urbaine qui est aujourd'hui à l'œuvre déjà, vous le savez certainement, avec notre grand projet en rue à La Paillade, hein, dans le quartier de la Mausson, dite La Paillade, et également dans le quartier des Cévennes. Donc nous accompagnons sur le plan culturel, nous commençons à travailler actuellement sur cet accompagnement. Pourquoi ? Parce qu'en effet, nous croyons très, très sincèrement et très profondément, nous sommes convaincus vraiment que l'urbanisme ne peut pas être réfléchi indépendamment de la culture et inversement, c'est-à-dire que tout ce qui se peut se déployer dans l'espace public, évidemment, permettra d'accompagner cette rénovation, ces modifications de ce paysage urbain. Et l'espace public mérite alors, à travers ces chantiers de rénovation urbaine que je viens d'évoquer, l'espace public mérite alors, et c'est le but de ces rencontres, d'être pensé. L'espace public n'est finalement pas pensé. Généralement, il est pensé par les urbanistes, bien sûr, quand ils doivent concevoir, réfléchir à l'aménagement de certains équipements, de certains bâtiments, de la construction. Mais c'est vrai qu'il est toujours réfléchi un peu en creux, cet espace public. C'est un peu par défaut. Et on s'en aperçoit finalement aussi dans l'attitude, dans le comportement de certains concitoyens qui ne considèrent pas l'espace public comme étant un espace finalement commun. C'est comment faire du commun dans cet espace public. Pour nous, ça c'est une vraie question. Et nous n'avons pas, nous, de réponse toute faite. Nous sommes en revanche tout à fait enthousiastes à l'idée de pouvoir y réfléchir grâce à ce projet que nous avons sélectionné, qui permettra de réfléchir ensemble de comment faire que cet espace public soit à la fois agréable, bien sûr, pour l'ensemble d'une population, d'un territoire, donc ici Montpellier, la métropole, mais, et au-delà, bien sûr, mais aussi comment est-ce que on s'approprie cet espace ? Comment est-ce qu'on le fait sien ? À travers des récits, par exemple. Ça, c'est des choses que nous souhaitons développer à travers le chantier de rénovation urbaine, des récits d'un quartier. Comment est-ce qu'on s'approprie finalement cet espace, qu'on le fasse sien, tout en pensant qu'il est aussi commun à d'autres. Voilà. C'est toute cette chose un peu délicate qu'il s'agit toujours pour les équipes en place dans les municipalités, qu'il s'agit de penser et de réfléchir. Voilà. C'est ce que nous proposons de faire grâce à vous aujourd'hui. J'en ai terminé. On va sans plus tarder peut-être céder la parole à qui de droit.
Merci Agnès Robin. Merci. Je pense qu'on peut être content, satisfait d'avoir un plateau aussi important, intéressant, en tout cas pour nous, pour questionner cet espace public. Je vais rejoindre juste un mot qui a été dit. Pour nous, il est important justement de questionner cet espace public, ces espaces publics, on le verra notamment avec Chantal Decmine, parce que on a l'impression quelque part de le connaître, cet espace public que tout le monde finalement, c'est devenu un mot tellement usuel. Mais finalement, est-ce qu'on le connaît vraiment? Est-ce qu'on le connaît dans ses multiples dimensions? Et est-ce que finalement, quand on évoque cet espace public, quand on fait ce cycle, ces rencontres, est-ce que finalement on n'est pas aussi en train de le construire? Nous, c'est ce qu'on croit et c'est ce qu'on va essayer de voir à travers ces quatre conférences. Je tiens à remercier aussi, bien sûr, la ville Montpellier 2028 pour nous permettre de faire ce cycle, le département aussi qui accompagne Montpellier 2028, et puis aussi, bien sûr, nos partenaires locaux qui sont en train de nous réaliser en ce temps même un podcast qui sera disponible sous peu. Et puis, bien sûr, à travers aussi notre partenaire La Cavale, la librairie que vous voyez juste au fond, qui propose une sélection d'ouvrages qui sont en lien avec le thème qu'on aborde ce soir, et notamment le livre de Chantal Decmine sur lequel on va s'appuyer ce soir, hein, bien sûr, ce livre-là que je voulais vous montrer. Lire la ville, voilà, un ouvrage très intéressant, un manuel, et je pense que maintenant on peut laisser la parole à Chantal Decmine, si Pascal tu le veux bien, et peut-être aussi
petit programme, on avait dit que peut-être tu dirais un mot plus particulièrement de la MAOM, et moi de la ZAT, mais tu l'as un peu dit sur la maison de l'archi.
On a un peu...
Après, on avait préparé de magnifiques diapositives, que du coup on doit forcément
Pascal montrer,
sinon c'est pas drôle. Donc là c'est la... Tu veux redire un mot sur la maison de l'archi?
Ah oui, bien sûr, sur la maison de l'architecture. La maison de l'architecture Occitanie-Méditerranée. J'espère en tout cas que vous commencez à toutes et tous la connaître. C'est une association qui a pour vocation de travailler à la sensibilisation et puis à la diffusion de la culture architecturale auprès du plus grand nombre. Et je pense que c'est ce qu'on est en train de faire. Nos actions s'orientent bien sûr sur de la sensibilisation architecturale, beaucoup de sensibilisation sur le scolaire, et ça on le dit pas assez, sur les primaires, sur les collèges, où on a une équipe formidable qui œuvre au jour le jour pour travailler justement sur ces questions-là. Des cycles de conférences, aussi peut-être les Archicity que vous connaissez, des visites architecturales de bâtiments, mais aussi de quartier, et puis de multiples actions qu'on essaye de développer, notamment des projections, peut-être certains d'entre vous y ont participé, projections en plein air, de films et puis de débats. Et donc nous sommes très heureux de pouvoir œuvrer et petit à petit de faire de plus en plus d'actions auprès du plus grand nombre, dont fait partie ce cycle.
Et je vais dire juste un mot sur la ZAT. Vous êtes les premiers et les premières à voir cette affiche de la ZAT, faite par Malte Martin, designer d'espace, designer graphique, avec lequel nous travaillons. Et vous pouvez donc d'ores et déjà noter les dates de la prochaine édition, du 11 au 13 novembre. Nous serons dans le quartier d'Antigone, là où tout a commencé il y a 12 ans. Comme très vite cela a été dit tout à l'heure, la ZAT revient, la ZAT reprend, et la ZAT s'enrichit de ce cycle que nous organisons ensemble, et également d'un programme d'urbanisme culturel qui s'appelle Transat, dont on vous parlera bientôt. L'espace public pour nous, effectivement, il peut être conçu pas uniquement par les urbanistes et les architectes, mais aussi par les artistes, par les citoyens. L'espace public, c'est une production collective, c'est une œuvre collective, comme le disait Henri Lefebvre, l'auteur du Droit à la ville. Et nous, avec nos outils spécifiques, avec nos alliés que sont les artistes, et ils sont quelques-uns ici dans la salle, je les salue, nous pensons qu'il est possible non seulement de créer dans l'espace public, mais aussi de créer de l'espace public. C'est-à-dire que par la création artistique, par des spectacles, des installations, on façonne aussi l'espace public. Et on peut même, et c'est ce dont on va parler dans les prochaines rencontres, coproduire l'espace public, être dans les process de fabrication de l'espace public, être dans les process de la fabrique urbaine. Ça sera le sujet qu'on traitera dans trois rencontres. Je voulais juste dire que finalement, cette notion d'espace public, elle est double. Il y a un espace public physique et un espace public symbolique. Il y a une dimension matérielle et une dimension culturelle. Et c'est cette double approche qui nous intéresse, c'est de ne jamais perdre de vue cette double dimension. L'urbanité, c'est la même chose. L'urbanité a une dimension spatiale et une dimension sociale. Donc on est très attaché à ça. C'est tout le sens aussi de notre association. D'un côté, effectivement, une maison de l'architecture et de l'autre, une structure culturelle qui développe des projets artistiques et culturels. C'est cette alliance des deux qui nous paraît fondamentalement important. Je dirais un tout dernier mot sur vous dans la salle, parce qu'on a monté ce cycle avec l'idée aussi de réunir des professionnels, des étudiants, des chercheurs qui travaillent soit dans le champ de l'urbain et de l'archi, soit dans le champ de la création artistique, de l'action culturelle dans l'espace public. Et là, on voit, enfin, vous allez discuter tout à l'heure autour d'un verre, on voit que vous venez de ces différents mondes. Et c'est ça qui nous intéresse aussi, c'est de réunir des professionnels qui travaillent sur le même objet, mais qui ne se croisent pas nécessairement. Ça, c'est vraiment très important. Et donc, les prises de parole dans la partie de discussion et autour d'un verre tout à l'heure, elles sont là pour créer du réseau également et de l'échange. Donc, je salue encore une fois les artistes que j'aperçois dans la salle, les professionnels de l'action culturelle et de l'architecture et de l'urbanisme. On souhaite vraiment réseauter, comme disent les Québécois. C'est très important pour nous. Voilà, je crois qu'il faut qu'on s'arrête et qu'on donne le micro à Chantal.
Alors Chantal, tout de même, quand même, je vais parler de vous un peu pour ceux qui ne vous connaissent pas. Donc Chantal Dekmine, vous êtes architecte, urbaniste et anthropologue. Depuis une quarantaine d'années, vous répondez à la commande publique par une approche urbaine et sociale en vous appuyant, et je pense que vous nous en direz plusieurs mots, principalement sur des récits littéraires. Chose qui, effectivement, mérite une attention toute particulière. Autour d'une équipe d'écrivains, d'artistes, d'architectes, de paysagistes et de philosophes, vous avez fondé en 1997 à Marseille l'association Lire la Ville, qui est à la fois un atelier urbain et une agence de reconversion professionnelle œuvrant auprès des populations et des lieux urbains à divers titres disqualifiés. Vous avez publié en 2020 le livre « Lire la ville » que je présentais tout à l'heure et que vous retrouvez au fond avec la librairie La Cavale, « Manuel pour une hospitalité de l'espace public ». Et je vous laisse la parole. Merci.
Je vous remercie en tout premièrement de m'avoir invité. Je suis particulièrement honorée d'être invitée à Montpellier. Merci beaucoup. J'aurais beaucoup aimé vous parler, mais en fait, je vous ai écrit... Et donc, je vais vous lire un texte. J'espère que vous aurez de l'indulgence pour ça. Je vais essayer d'être claire. Et si quelque chose, si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez surtout pas à m'interrompre. Voilà. Donc, puisque notre sujet, c'est à la fois l'hospitalité, l'espace public, la ville, l'art, la culture, je vais essayer de vous parler de la ville en tant que dispositif d'hospitalité le plus abouti et en tant que, selon l'architecte Aldo Rossi, l'œuvre d'art la plus complexe qui soit. Je pense que ça devrait nous dire quelque chose de la place de l'art et de la culture dans la ville. Dans la caméra de Claire, Aung San Suu fait dire à son personnage: la seule façon de changer les choses, c'est de les regarder à nouveau, très longuement. Nous n'avons rien d'autre à faire que de porter ce regard amoureux et long, rapproché, ralenti, sur l'espace qui nous entoure. La ville, surtout, demande qu'on la dévisage ainsi et qu'on l'aime, que l'on reconnaisse la figure qu'elle compose et que l'on comprenne que cette figure n'a rien d'une occurrence hasardeuse. Que la ville nous est consubstantielle. L'art participe à cet engendrement mutuel. On pourrait dire que pour les archéologues, ces traces constituent une sorte de signature de la présence de l'humanité. Même Robinson Crusoe recrée autour de lui un espace ordonnancé, compartimenté par des limites plus ou moins fines, ritualisé par des représentations et rythmé par la mesure du temps. En français, le mot « ville » nous vient du latin villa. La villa romaine n'est rien d'autre qu'un domaine agricole, l'occupation progressive d'un espace naturel, sa partition entre des espaces domestiques, d'autres communs et d'échanges, des espaces de travail, des lieux de stockage, des chemins, enfin, tout ce qui permet l'organisation et la régulation d'une vie en société. Les emplacements du bâti, comme ceux des chemins ou des champs, des bordures, s'articulent très précisément, d'une part et premièrement, avec le territoire, d'autre part, avec les nécessités de l'installation. Les formes, leurs formes ne sont jamais n'importe quoi ou purement fonctionnelles, elles sont composées et façonnées avec art. Le geste anthropologique d'habiter précède le geste de construire. La ville, quant à elle, depuis son état embryonnaire jusqu'à aujourd'hui, est l'habitat des humains, l'habitat naturel des humains. Elle les porte en même temps qu'ils l'engendrent, la secrète autour d'eux, depuis la ferme, le hameau, le village, jusqu'à la ville et au bidonville. C'est la façon qu'ont les humains de s'inscrire dans un territoire pour le rendre habitable. Les prémices de la ville sont présentes dès les cavernes, dans les fresques pariétales qui veillent sur les foyers qui sont venus s'y rassembler. Elles sont présentes dans le tapis des nomades, qui ne protègent pas seulement de l'humidité du sol, qui repensent le sol, avec tout ce qu'il contient et déploie de vivant, pour en faire un lieu habitable par des humains. Et au premier point d'arrêt de fixation, la tombe sera une figure fondatrice, essentielle, nouant la profondeur du sol avec l'élan du sacré. La ville telle que nous la connaissons aujourd'hui apparaît il y a environ 6000 ans, à peu près en même temps que l'écriture, et encore aujourd'hui, elle nous est aussi indispensable que l'écriture. L'opposition entre ville et campagne repose sur un quiproquo, une illusion d'optique. Alors que ces espaces sont homogènes, sont régis par la même organisation, ce qui retient notre regard, c'est leur variation de densité que nous prenons pour une différence de nature. Le paysage remodelé par les humains agence des chemins au tracé persistant, des carroyages agricoles, des cultures dont les sillons préfigurent les lignes d'écriture, des champs de force et des points d'acupuncture, fermes, chapelles, fabriques ou thébaïdes. Ce que nous appelons ville, ce sont les moments où ce paysage se condense autour de ses pôles magnétiques jusqu'à atteindre une masse critique. Ces moments où le végétal cède le pas au construit qui se resserre autour des chemins, forme avec eux des carrefours, des places. L'espace des chemins, qui appartient à tout le monde, autrement dit l'espace public, devient alors le moule sur lequel vient se conformer l'espace privé. Et réciproquement, l'espace privé vient border, mais aussi tapisser l'espace public, l'enluminer de ses façades ou de ses commerces. C'est une sorte de miracle. La dite campagne, la Cora, les écarts, la banlieue se rejoignent et sont aspirés par la masse gravitaire de la ville toujours en formation, que l'on appelle aussi d'ailleurs une agglomération. La densité du construit l'emporte alors sur les espaces ouverts, qui ne sont pas des vides, mais des creux. Ils sont au contraire les gardiens du sens et deviennent même précisément le lieu de l'orientation. Ces creux contiennent des volumes d'air qui, tout autant que les pleins, ont des formes que l'on sait reconnaître et nommer, rue, avenue, place, etc. Le plus souvent, cette condensation s'est agrégée autour d'un accident géologique ou géographique. L'abri d'une calanque, un débarcadère, le poste de guet offert par un piton rocheux, la fertilité d'une combe, d'un limon, ou le croisement de routes cardinales. C'est à partir de ce point géodésique devenu stratégique que va pulser et se déployer le mouvement d'un désir collectif pour habiter, produire et commercer, faire émerger la figure d'une ville. Quelle que soit l'emprise de la virtualité, nous avons tous, enfin presque tous, les pieds sur terre. Nous sommes chacun très matériellement localisés quelque part sur un sol qui nous porte. Au-delà d'une localisation, ce à quoi nous aide la ville, c'est à trouver une place et à comprendre le monde qui nous entoure. C'est l'une des formes de son hospitalité. Elle est un grand corps, beaucoup plus grand et plus ancien que nous, qui accueille notre naissance et notre mort, qui nous instruit du monde et nous assure qu'il ne disparaîtra pas avec nous. Elle nous forme tout au long de notre vie à vivre avec nous-mêmes et avec les autres. Elle nous apprend la politesse et l'urbanité. Alors, politesse, civilité et urbanité, l'étymologie dans les trois cas, la racine, c'est le mot ville, en grec ou en latin. La bonne distance, le théâtre social, fait de liberté en même temps que de témoignage, de surveillance mutuelle. Elle nous offre le repère et l'appui de ces lieux symboliques et une multitude de réceptacles pour notre imaginaire. Son instruction passe notamment par les emplacements. L'espace de la ville n'est pas isomorphe. Il est entièrement hiérarchisé par des points, des lignes, des figures, des pôles d'attraction, tels un monument, une rive, une institution, un lieu de pouvoir, un pont, une porte. La ville nous accueille dans un espace entièrement doué de sens et de valeurs. Chaque lieu y est une place, et hiérarchiquement situé par rapport à un ou plusieurs pôles. Chaque centimètre carré est doté d'une valeur vectorielle, d'une valeur symbolique et de la financière. La ville est une table d'orientation à l'échelle 1. C'est, à livre ouvert, un guide du comportement et des lois en vigueur. Par l'organisation du bâti, la ville montre à tous comment se règlent les distances. Elle indique les limites, les valeurs et les densités, le devant et le derrière, les mitoyennetés et les vis-à-vis, le propre et le sale, ce qui est public et ce qui est privé, ce qu'on peut montrer, ce qu'on doit cacher, etc. Cette polarisation et cet ordonnancement forment le paysage urbain et nous instruisent directement dans un langage qui n'est ni écrit ni oral, mais matériel, expérientiel, parlant directement à nos sens. C'est ce qui en fait l'imparable efficacité. Par son étymologie, le mot « accueil » parle de nous cueillir et de nous mettre en bouquet. L'attachement au lieu participe activement à cet accueil. Nous nous reconnaissons tous dans telle ou telle ville, dans des lieux précis que nous aimons, qui ont marqué notre imaginaire ou notre histoire personnelle. C'est là un attachement que nous partageons avec d'autres. Cet attachement commun produit deux effets. Le désir très précieux de soigner et protéger un lieu et l'appartenance au groupe de ses fidèles. Le modèle pourrait être celui de la petite société que constitue le public hétéroclite et anonyme d'une salle de spectacle pris ensemble dans le plaisir, l'intelligence et l'attention portées à un même événement. La singularité des lieux, l'attachement que nous leur portons, contribuent à nous constituer en société. Tout ceci pour vous dire que la ville, en tant que contenant de nos vies individuelles et collectives, n'a rien d'un décor passif. C'est un dispositif, un agent de civilisation et d'hospitalité. Alors ici, il importe de comprendre qu'un dispositif spatial, dans sa forme matérielle, ne peut bien évidemment agir dans l'ordre causal. Il agit en tant que condition. Et il importe aussi de comprendre que non seulement la forme n'a rien de secondaire, mais que, on dit quelquefois c'est formel pour dire c'est secondaire, hein, non seulement la forme n'a rien de secondaire, mais que la condition est aussi déterminante que la cause. Un prisonnier dans sa cellule, il sait que ce n'est pas les murs de sa cellule qui sont la cause de son enfermement. Voilà. Mais c'est une condition tout à fait déterminante et qui change sa vie. Une condition aussi déterminante que la condition est aussi déterminante que la cause, elle est même première, puisqu'elle accueille tout le reste, on dit tout ce qui a lieu. L'hospitalité, venons-y, telle que définie par le philosophe Jacques Derrida, s'exerce entre deux sujets, deux égaux, mais qui n'ont pas le même statut. Elle s'exerce dans un cadre qui n'est pas celui de l'invitation, mais c'est celui de la visite. C'est celle que l'on déploie non pas lorsque l'on accueille quelqu'un que l'on a invité, mais lorsque l'on reçoit la visite d'un étranger. C'est donc accueillir soi-même en tant que sujet habitant son propre milieu, ce qui n'est déjà pas une mince affaire, d'être chez soi, quelqu'un d'inconnu et d'inattendu qui lui-même en tant que sujet arrive non pas à notre initiative mais à la sienne, par son propre mouvement. Derrida donne à l'hospitalité l'horizon d'être inconditionnel, ce serait parfait. Mais comme un horizon, c'est à la fois ce qui nous guide, un idéal, et ce qui reste inaccessible en tant que ici lui est inhérent le risque de se trouver détruit par un autre qui nous serait hostile. Pour lui, la seule hospitalité praticable est une hospitalité conditionnelle. Une hospitalité dans laquelle l'autre est accueilli dans le respect de son altérité, à la condition qu'il respecte les lois de celui qui l'accueille. Pour qu'il respecte ces lois, encore faut-il qu'il les connaisse, qu'on lui donne les clés qui lui permettront de vivre en bonne intelligence avec le lieu et avec ceux qui l'habitent. Nous venons de l'évoquer, ces clés et cette connaissance, cette instruction, la ville les offre assez naturellement, parce que sa forme est la matérialisation de la société qu'il a engendrée et qui continue de l'engendrer. Aujourd'hui, l'enseignement de l'espace est toujours aussi efficace, mais il s'est retourné. Il est devenu contre-performant, anti-pédagogique, parce que la ville est en voie de disparition. Sa forme vivante et complexe s'est vue substituer à un puzzle de zones dédiées qui sont autant d'hétérotopie. La notion est portée par Michel Foucault. Zone de logement, de commerce, d'activité, de loisirs, zone verte, zone historique et touristique pour le centre-ville, etc. Pour s'exercer, l'hospitalité demande que le lieu d'accueil soit constitué dans une forme civile, qui exprime ses propres lois et les fasse connaître. C'est-à-dire dans un espace soit privé, régi par la coutume, soit public, régi par la loi de la République, pas dans une hétérotopie, une zone fonctionnelle qui est ni privée ni publique, c'est-à-dire qu'il n'appartient pas à quelqu'un ni à tout le monde, est régi par un règlement intérieur. L'urbanisme issu du mouvement moderne est un exemple d'utopie réalisée. Toujours en vigueur, il a de façon univoque et maintenant dominante rompu avec la pensée et donc la forme de la ville, qui ajustait avec précision espace privé et espace public, qui opérait une négociation permanente entre intérêts privés et intérêts collectifs. La place assignée à l'art par l'urbanisme moderne est sans doute venue répondre à la grande peur qui, soudain, un jour, a saisi Le Corbusier, lui-même, lorsqu'il a énoncé cette phrase extraordinaire « Les vides immenses que je crée dans cette ville imaginaire, dominée par un ciel répandu partout, j'avais une grande angoisse qu'ils fussent morts, que l'ennui régnât, que la panique ne saisisse ses habitants. » C'est cité par Sylvia Ostrovetsky. Les villes sont en train de disparaître parce qu'on ne les regarde pas, ou seulement de très haut, de très loin, avec des yeux de techniciens et de gestionnaires industriels. Il semble que nous ayons perdu confiance dans ce miracle que représente cet habitat naturel des humains. La disparition de la ville est une atteinte à notre écologie et à notre survie, aussi déterminante que les autres atteintes écologiques, que l'atteinte au climat. La prise de conscience et l'action sont aussi urgentes. Actuellement, ça commence à venir, la prise de conscience sur le climat, mais sur la ville, on est encore un peu loin. L'un et l'autre de ces désastres demanderaient, la ville et le climat, mettons, l'un et l'autre de ces désastres demanderaient le même renversement de perspective, le même courage. La question n'est pas de réintroduire l'hospitalité, l'art et la culture dans un urbanisme d'objets qui s'en est résolument départi, mais de faire tout autrement, de remettre en culture la ville contemporaine. Comment remettre la ville en culture ? En matière d'hospitalité, la préséance revient à l'existant, soit au territoire dans son sens géologique, géographique, anthropologique, qu'il soit urbain ou non. C'est lui qui détient de loin la plus grande antériorité C'est lui qui nous accueille et nous sommes les visiteurs qui viennent s'y installer, qui doivent se conformer à ses lois. Pour cela, il faut changer d'échelle, de regard et de posture. Comme on le fait vis-à-vis de la nature, il faut s'attacher à regarder comment la ville pousse, où et sur quel sol, sur quel fondement, comprendre où sont ses cartilages de croissance et comment ils fonctionnent, l'interroger sur ce qu'elle veut devenir, l'accompagner dans son mouvement et en finir avec la méconnaissance et l'arrogance. Remettre la ville en culture demande d'emboîter trois dimensions. Celle du territoire, soit le lieu et ce qu'il veut devenir, ce qui demande des méthodes d'observation, de description et de traduction, c'est pas très tout simple. Celle du désir d'habiter de ceux qui y vivent ou s'y installent, lequel désir constitue le seul fondement légitime et la dynamique vivante de la ville, mais ne peut être laissé à lui-même dans la mesure où la loi du plus fort aurait tôt fait de l'emporter. Le troisième agent, c'est la volonté politique, qui seule peut faire s'emboîter les deux premiers pour reprendre et continuer la ville. Seule une volonté politique armée d'une connaissance fine de ce qu'est la ville et d'une conscience de l'importance de son rôle pourra déjouer l'intérêt du plus fort et subordonner les intérêts privés à l'intérêt collectif. J'ajouterai que dans un tel emboîtement, les modalités de l'aménagement sont moins à comprendre comme l'atterrissage d'un projet architectural ou artistique sur un terrain à bâtir, parfois rendu à l'état de table rase, que dans une démarche que Lucien Croix appelait d'incrémentation, du pas à pas, des allers-retours entre le territoire, le lieu, et l'intervention, la façon que l'on a de s'y inviter ou d'y installer un nouveau venu. L'art et la culture ont leur place à chaque accointance de cet emboîtement. Les artistes sont parmi les mieux placés pour voir et lire un territoire, le regarder de nouveau très longuement, puis entrer en dialogue avec lui par leurs interventions. D'ailleurs, dès les années 60, c'est l'un d'entre eux, Daniel Buren, qui a initié une pensée in situ. Plus largement, il s'agit de sortir des partitions et des procédures qui, tel le 1%, cantonnent l'art dans le registre de la production, quand ce n'est pas de la production d'objets ou de l'occupation d'espace. La question n'est pas seulement que des lieux de l'espace public soient concédés à des artistes, que ces derniers trouvent à s'y exprimer. C'est la conception même de la ville que la pensée artistique, poétique, doit inspirer. Celle-ci doit être physiquement présente dans les instances décisionnaires, habiter directement les décisions politiques relative à l'aménagement de la ville. Je vous remercie de m'avoir écouté.
Bon, je laisse Pascal introduire.
Je vais être très rapide. Nous partons à Lunel, 26 000 habitants. Il y avait une gare qui n'est plus une gare, comme 3000 gares en France. Je spoil un tout petit peu, mais c'est pour introduire ton propos. Et justement, que fait-on d'un bâtiment public qui n'a plus d'usage? C'est un peu la question à laquelle la prof par 7 et toi, Mathilde, vous répondez. C'est ce que tu vas nous présenter.
Je commence par le petit exercice de remerciement. Je suis très heureuse d'être là à plusieurs titres. D'abord pour parler de Lunel, parce qu'on parle de la candidature 2028 de Montpellier, mais c'est du territoire de Montpellier. Et dans le territoire de Montpellier, il y a la communauté de communes du pays de Lunel. Et donc à ce titre, je suis très fière de venir parler de Lunel. Je suis aussi très honorée de prendre la parole après Chantal Dekmine, parce que j'ai lu aussi ce livre « Lire la ville » et c'est même un de mes livres de chevet et qui m'a vraiment permis de traverser cette expérimentation à Lunel dont je vais vous parler à l'ancienne gare. Donc c'est vraiment un grand honneur. Et ce qui m'amuse aussi, c'est que Patrick Bouchain, dont je vais vous parler et qui a développé avec Sophie Léron le dispositif de la preuve par 7, a coutume de dire qu'il faut réunir la tête et la main. Je trouve que ce soir, on fait l'exercice. Toi, tu étais plutôt la tête et moi, je suis plutôt la main. Je vais parler du faire et tu as parlé de... Je ne dis pas que tu ne fais pas et je ne dis pas que je ne réfléchis pas, mais en tout cas, ce soir, on a un bon binôme. Effectivement, donc, je suis là pour vous parler du projet expérimental qui a commencé il y a quelques temps déjà. Alors c'est difficile de le dater, on va dire que ma permanence a commencé il y a 18 mois, et le projet a commencé un peu avant. Mais avant de vous parler de l'ancienne gare de Lunel, j'aime bien Edgar Morin, que vous connaissez sans doute, et qui, comme tout bon 68art activiste, commence toujours à parler en disant d'où parle le parleur ou d'où parle-t-on. Donc moi j'avais envie de vous parler effectivement de d'où je parle de Lunel. Donc comme tu l'as dit Pascal, Lunel c'est une petite ville de 26 000 habitants pour ceux qui connaissent, pour ceux qui connaissent pas c'est aussi une ville qui, c'est drôle en fait, moi plus j'ai travaillé sur cette ville et plus je me dis que c'est la ville du milieu, parce que c'est la ville qui est à peu près à mi-chemin entre Montpellier et Nîmes, mais c'est aussi à mi-chemin entre Arles et Sète, mais c'est aussi à mi-chemin entre l'Italie et l'Espagne, c'est aussi à mi-chemin entre les Salins et la Garrigue, à mi-chemin entre la montagne et la mer. C'est vraiment la ville de l'interface, et d'ailleurs les Romains ne s'y étaient pas trompés puisque la Via Domitia y passe et il y avait une auberge juste à côté de Lunel à Ambrosum, qui était justement à peu près l'équidistance entre l'Espagne et l'Italie. On parle d'espace public depuis tout à l'heure. Moi, c'est vrai que je me posais la question en préparant ce soir, en me disant, mais alors comment moi je définirais l'espace public ? Je trouve que on en parle beaucoup. Est-ce que c'est si clair pour tout le monde ? Est-ce qu'on est d'accord sur la définition de qu'est-ce que c'est que l'espace public ? Alors, ce que j'ai trouvé qui me paraissait personnellement le plus juste, mais on peut mettre ça en jachère, en discussion, pour voir si vous êtes d'accord ou pas. L'espace public représente dans les sociétés humaines, et en particulier urbaines, l'ensemble des espaces de passage et de rassemblement qui sont à l'usage de tous et sans restriction. Je note, en tout cas, dans toutes les définitions que j'ai cherchées, qu'on ne parle pas, et c'est ce que je te disais tout à l'heure Chantal, on ne parle pas vraiment de gradation d'espace public, si ce sont des espaces couverts, fermé, ouvert. Alors, est-ce qu'on parle d'un espace ouvert quand on parle d'une place ? J'ai pas trouvé le mot non plus qui permettait de définir un espace public par opposition à un espace public qui serait fermé, un espace public ouvert. Bon, je trouve que c'est un peu pauvre, mais un espace public.
Ouais, quand c'est fermé, c'est souvent le domaine public.
Oui.
Par exemple, une prison, à ce moment-là, ce serait un espace public, mais c'est un domaine public.
Et en tout cas, donc là, vous avez une photo aérienne de la ville de Lunel, de l'agglomération, et vous percevez le Vidourle sur la partie droite, et puis l'espèce d'arc de cercle là qu'on voit, c'est la voie ferrée. Et la voie ferrée coupe vraiment l'agglomération de Lunel en deux, Lunel Nord et Lunel Sud. Le point jaune, c'est l'ancienne gare, là d'où on parle. Et donc, même à Lunel, ce Lunel qui est au milieu de tout, l'ancienne gare, c'est le centre du milieu. Voilà. L'espace public dont on parle ici précisément, il a été révélé, façonné suite à des travaux d'aménagement pour un pôle d'échange multimodal. Ça a été livré en 2019. Et donc, vous voyez le bâtiment avec l'escalier en fer à cheval, c'est l'ancienne gare dont on parle, qui est un bâtiment qui a à peu près une emprise au sol de 200 mètres carrés sur trois niveaux. Qui a une particularité, c'est un ouvrage d'art en fait. Pour la SNCF, c'est un peu l'origine de la question, et c'est le cas pour beaucoup de bâtiments qui appartiennent à la SNCF, mais en tout cas celui-ci c'est un ouvrage d'art, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas bien sur la photo, mais il y a un décalage, en fait les voies ferrées sont à 4 mètres au-dessus du niveau du sol urbain, et donc le bâtiment porte les voies. Donc ça rend la question encore un petit peu plus compliquée. La question de que faire d'une ancienne gare, c'est une question que la SNCF s'est posée là quand même depuis quelques années, parce qu'en fait, donc ce gros propriétaire foncier français, un des plus gros en France, réalise aujourd'hui qu'ils ont 6000 bâtiments vacants dans leur parc immobilier. Et sur les 6000 bâtiments vacants, il y en a 3000 qui sont à capital négatif, c'est-à-dire qui leur coûtent de l'argent. Et évidemment, s'ils gardent ces bâtiments, c'est que la plupart du temps, c'est pas possible de les vendre pour des, justement, voilà, là par exemple, une contrainte technique. On a besoin de contrôler régulièrement le mur de soutènement qui porte les voies et qui est le mur de l'ancienne gare. Donc effectivement, la question, qu'est-ce qu'on peut faire de cette ancienne gare ? Je vous fais observer aussi qu'un petit peu plus loin, je pense à en reparler parce que on s'est posé la question. de ce bâtiment. On n'était pas sûr au départ que c'était une ancienne gare. Et en tout cas, la gare vivante, qui est toujours active, gare vivante, c'est ce qu'ils emploient à la SNCF. C'est pas moi qui l'invente, je trouve ça bizarre, mais c'est ce qu'ils disent. C'est le bâtiment qui est juste dans le prolongement. Donc en fait, ce bâtiment, quand on est arrivé, on a cherché à le comprendre et on s'est rendu compte qu'effectivement, il est arrivé très tôt. Il est arrivé en 1835, au moment où la voie ferrée est arrivée à Lunel. Et c'est-à-dire tout de suite après l'arrivée de du chemin de fer en France. Ce que j'en comprends, parce que malgré mes nombreuses recherches, je n'ai pas eu d'explication précise à ce sujet, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que 20 ans après, donc en 1855, la gare n'était déjà plus en capacité de gérer les flux. Donc je pense qu'ils ont été très surpris du buzz du chemin de fer en France. Et donc, ils ont délocalisé à ce moment-là la gare, le bâtiment voyageur, dans la gare qui était la gare de commerce qui est juste à côté, mais qui est toujours la gare vivante actuelle. Ce que ça veut dire, c'est que l'espace public dont on parle, il est vraiment rythmé dans les temps de semaine. On parlait justement de sensibilité de l'espace public. Alors nous, ça, voilà, entre 7h et 10h du matin, il y a des trains. Alors on peut parler des trains, il y a des TER, il y a la nouvelle génération qui glisse, qui ne fait pas de bruit, il y a la vieille génération qui fait un peu plus de bruit, il y a les trains de marchandises. C'est assez présent. On peut en parler aussi à Julien Guil, qui est dans l'Assemblée et qui est venu faire une forme dans l'espace public, et voilà, où le train, où les annonces répondaient à Victor Hugo. En tout cas, voilà, c'est vraiment un rythme sonore et aussi un rythme de passagers, parce qu'il y a 4000 personnes qui descendent ou qui montent à la gare de Lunel par jour. Ça représente 1 million de personnes par an, ce qui est colossal pour une ville de 26 000 habitants. Mais je reviens sur le fait que c'est donc la ville du milieu, donc ça s'explique sans doute par ça. Mais voilà, donc pendant la semaine et pendant les temps scolaires, beaucoup de monde le matin et le soir. Et puis vraiment une espèce de dichotomie où entre 10h et 17h, pas grand monde sur le parvis. Et le week-end et les vacances scolaires, encore moins. Mais ceci dit, on voit que, encore une fois, enfin sur l'image juste d'avant, on est quand même tout proche de l'Écusson. On devine la forme là, qui est le centre-ville, alors qui n'est pas piéton, mais enfin le centre-ville ancien. Et on est vraiment connecté à cette Écusson par une artère, l'avenue Victor Hugo, qui est une. Voilà, on est vraiment à 5 minutes du centre-ville. Donc c'est assez étonnant aussi de pratiquer cet espace public qui peut être quasiment abandonné pendant une grande partie de la journée, alors qu'on est si près du centre de là où ça se passe. Et puis enfin, tu l'as dit Pascal, donc ce bâtiment a déjà eu plusieurs vies. Donc en travaillant sur ce bâtiment, on a découvert que d'une part, c'était la gare historique. Et puis elle a été délaissée, abandonnée, elle a connu une période de vacances. Et puis ça a été, à partir de 1860 de mémoire, un centre de formation pour les métiers du train. Donc c'était un internat pour les gens qui venaient apprendre les différents métiers du train. Jusqu'en 1935, puis 1900, donc à nouveau un temps de vacances. 1960, c'est transformé en 4 logements pour des familles de cheminots. Puis, au début des années 2000, à nouveau abandonné. Et donc, l'histoire qu'on écrit aujourd'hui, c'est la 4e vie de ce bâtiment qu'on appelle donc le bâtiment de l'ancienne gare. Et la question, comment réhabiliter une ancienne gare, on peut la généraliser un petit peu aussi. Voilà, donc que faire de nos anciennes gares à l'abandon, et même que faire de tous ces bâtiments qui ont une vie parfois brillante et qui ont été délaissés pour des raisons. Alors là, certainement parce que voilà, la SNCF depuis 1980 était plutôt en jusqu'en 1980, on a vu qu'ils achetaient beaucoup et qu'ils agrandissaient énormément leur parc ferroviaire. Et puis depuis 1980, c'est un peu l'inverse. Donc on sent qu'il y a voilà moins de cheminots, moins de besoins. Mais que faire de tous ces bâtiments qui ont une vie brillante et qui sont abandonnés? Et parce que j'étais pas là quand la question s'est posée, mais en tout cas la question elle est pas simple. En l'occurrence, on sait que la SNCF va rester propriétaire des lieux puisqu'il y a ses servitudes techniques, que ni la SNCF ni la ville n'ont les moyens de réhabiliter un bâtiment qui fait 500 mètres carrés et ça coûterait quand même cher de le remettre en état pour on ne sait pas quels usages. Et finalement, la preuve par 7, donc ce dispositif qui a été créé par Sophie Léron et Patrick Bouchain, et qui défend le droit à l'expérimentation dans la fabrique urbaine, en disant, voilà, il y a parfois des questions où pour pouvoir apporter des réponses, il est important de répondre autrement. Et dans les outils qu'on expérimente dans ce dispositif de la preuve par 7, il y a notamment la permanence territoriale ou architecturale. Donc un des premiers actes de cette question de réhabilitation de l'ancienne gare traitée par Patrick Bouchain et moi-même, c'est de dire on va habiter le territoire, on ne peut pas répondre finement ou de façon juste ou de façon vraiment pertinente à une question si on n'habite pas le lieu et qu'on n'en comprend pas ses besoins, son histoire, les manques. Voilà. Donc là, c'était simplement un document qui est relativement récent, mais que je montre quand même au début. Vous ne devez rien voir, mais ce n'est pas grave. L'idée, c'est que vous voyez qu'il y a beaucoup de noms. C'est les personnes que nous sommes allés rencontrer pendant cette année. Donc là, moi, j'ai passé une année à Lunel, dans l'ancienne gare, pour essayer de comprendre ce territoire. Et donc, les différentes couleurs, ces différentes entités, groupes de personnes qu'on essaye de rassembler. Donc, il y a d'une part, d'abord, les cofinanceurs, qui sont la Banque du Territoire, la SNCF, et puis la Communauté de communes du Pays de Lunel. Ensuite, les partenaires, qui sont aussi la ville de Lunel, qui s'ajoute aux cofinanceurs et la preuve par 7. Et puis, il y a tous les gens que j'ai rencontrés, qui soient... et c'est ça qui est assez passionnant dans cette aventure, c'est que c'est vraiment sans distinction aucune. Et là, je rejoins un peu la définition de l'espace public. J'ai essayé de rencontrer un plus grand nombre de personnes en donnant la même écoute et la même disponibilité à Tao, qui a 7 ans, qui se dit lui-même handicapé et qui revenait de son cours d'aïkido, qu'à Max Brunel, qui était le monsieur cinéma qui a développé le cinéma à Lunel et qui a 92 ans aujourd'hui et qui était tout recroquevillé chez lui, qu'aux élus que je rencontre, aux designers, aux urbanistes, aux étudiants, enfin voilà, c'est vraiment une très très grande diversité de personnes, d'acteurs, de riverains, d'enfants, de personnes âgées, de personnes handicapées, de personnes un peu marginales. Et je crois que j'ai compté qu'on avait rencontré en un an quasiment 600 personnes. Donc c'est du sport. En tout cas, dans ce process expérimental où il y a justement la permanence, alors je peux expliquer un petit peu plus ce que c'est qu'une permanence, parce que même pour moi au départ c'était pas forcément très clair de ce que ça voulait dire. Donc ça commence d'abord par habiter le lieu, alors c'est pas forcément y habiter tout le temps, moi je triche un peu, je fais des allers-retours entre Montpellier et Lunel. Mais si, en tout cas, y être aussi sur des espaces interstitiels, c'est pas que des heures de travail, ça peut être justement des soirs quand il n'y a plus de train. C'est très différent d'être à l'ancienne gare après le dernier train qui est à 22h, on n'est plus du tout. Et là, quand tu parlais effectivement des rez-de-chaussée, on est sur un espace public où il n'y a pas de rez-de-chaussée parce qu'en fait, nous, il y a le mur de soutènement, il y a la rampe. La gare vivante ferme à 19h, même quand il y a encore des trains, donc il y a un rideau de fer. Et puis en face, c'est des commerces, donc ça ferme aussi à 19h. Donc c'est vrai que c'est une sensation assez, assez étrange. On est un peu isolé du reste du monde. Et voilà, c'est aussi comprendre ce lieu-là. Donc c'est habiter le lieu, c'est ouvrir une porte. Je pense que déjà le premier acte de cette permanence était d'ouvrir la porte, de la laisser ouverte. Le deuxième axe, ça a été d'acheter une machine à café. Parce qu'effectivement, dans la notion d'hospitalité, je rejoins complètement la définition que tu nous as proposée tout à l'heure. Nous, on dit beaucoup qu'il faut accepter l'inattendu. Ce qui est très marrant, c'est que, bon, comme vous voyez, il y a des gens qu'on veut rencontrer, il y a des rendez-vous qu'on prévoit, il y a des choses qu'on décide de faire. On veut aller marcher le long du canal, on veut aller voir en Brossomme, on veut aller rencontrer quelqu'un en dehors de l'ancienne gare. Et quand on est à l'ancienne gare, régulièrement, on essaye, alors je dis on parce qu'on est une équipe de 5 personnes maintenant, que je pourrais vous présenter un peu plus tard. Parfois, on se fait un programme de la journée en se disant aujourd'hui, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, et ça n'arrive jamais. Parce qu'en fait, effectivement, le fait de laisser la porte ouverte et d'être là, l'inattendu arrive toujours. Et il y a toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inattendus. Et c'est vraiment une grande joie, une grande richesse. On est dans une inefficacité totale, je pense, en termes de production. Enfin, j'en sais rien si on compare à quelque chose de plus classique ou traditionnel. Mais ce temps long qu'on donne à l'écoute, à la compréhension, à la sensibilité est vraiment, il me semble, fondamental. Et c'est vrai que c'est pas anodin d'accueillir l'étranger et l'inconnu chez soi, parce qu'en plus parfois l'étranger, il n'a pas forcément l'air très sympathique, il n'est pas toujours sobre, et il n'a pas toujours pris de douche récemment. Donc en tout cas, voilà, c'est aussi je trouve à titre personnel une vraie expérience de rester dans l'écoute et dans l'écoute et la disponibilité, d'ouvrir ce lieu et de le rendre disponible. Après avoir acheté une machine à café, donc bon, je peux vous montrer quelques photos qui parle un peu de la chronologie de cette permanence et de cette année que j'ai traversée. On est arrivé, on a fait des travaux, un petit peu pour remettre. Donc la dernière fois, ça avait été un local, un logement pour des cheminots. Alors ils aimaient visiblement beaucoup les couleurs vives et complémentaires. Donc il y avait des murs orange et violet, des murs jaunes et verts, avec des éléphants au pochoir ou je sais pas. Donc j'avais envie de quelque chose d'un peu plus moins personnel pour favoriser l'appropriation, puisque finalement une des données aussi de la permanence, c'est de donner ce lieu à l'expérimentation pour toutes les forces vives, tous les acteurs, tous les gens qui ont envie d'essayer quelque chose, de tester quelque chose et qui sont à Lunel. C'est de venir, voilà, moi j'ai envie d'ouvrir une bibliothèque tournante, mais j'ai pas d'argent, donc ça tombe bien parce qu'on leur met un lieu à disposition et ces personnes-là peuvent tester pendant une semaine, trois semaines, un mois, six mois, essayer de voir si le créneau du matin est plus propice que le créneau du soir, s'il y a du monde, s'il y a de l'offre, voilà. Entre autres, enfin, il y a plein, on pourra parler aussi des usages qu'on a expérimentés. Et en tout cas, quand on a commencé les travaux pour juste une mise un peu au neutre, on va dire, on a fait appel à la régie de quartier. C'est-à-dire que là aussi, c'est une sorte d'accueil ou d'hospitalité. La régie de quartier, c'est comme les régies de territoire. C'est des organismes qui font de la réinsertion professionnelle et de l'accompagnement professionnel. Et donc, on a affaire à des gens qui sortent soit d'un chômage long, soit qui sortent de prison, soit qui n'ont pas travaillé depuis longtemps, soit qui sont en reconversion. Et ça, c'était toute l'équipe. Et c'était une belle aventure de commencer avec eux. S'approprier un lieu, donc comme voilà, l'appartement qu'on m'a mis à disposition dans cette ancienne gare est au premier étage de ce grand escalier monumental, et en plus il n'y a pas d'ascenseur, donc pas du tout accessible à tous, et en plus dans un contexte encore un petit peu covidé, difficile, donc pas évident d'entrevoir, de faire rencontrer 50 personnes qui ne se connaissent pas dans une pièce non ventilée un étage en plein Covid. Donc on a tout de suite investi les 2000 m² de parvis bas qui sont au pied de l'ancienne gare. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement ce parvis donc, qui venait d'être livré, c'est du béton désactivé, on parlait de la matérialité. Alors ça, c'est vraiment pour l'avoir vécu toute l'année. Bon, le béton désactivé, par exemple, ce que ça révèle, c'est que c'est un îlot de chaleur quand il fait 40 degrés, ça vraiment, ça chauffe très 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 longtemps après le coucher du soleil. Que tout récemment, bah, c'était aussi, voilà, comme on le sait, complètement imperméable. Donc j'étais inondée, j'étais vraiment dans une île mardi dernier. Quand j'ai voulu quitter l'ancienne gare, j'ai dû marcher sur le parvis avec de l'eau jusqu'à mi-mollet. Et en l'occurrence, voilà, on continue de planter des arbres qui sont encore tout chétifs. Donc ça ne procure pas d'ombre aujourd'hui encore. Donc un acte aussi qu'on a fait en arrivant, c'était de dire comment s'approprier cet espace public qui est au pied de l'ancienne gare, et c'est peut-être déjà en commençant à offrir quelques services qui nous semblaient défaillants sur cet espace, donc de l'ombre, des assises, et puis un lieu. Finalement, on a besoin sur ce grand espace ouvert qui donne sur des grandes avenues, il n'y a pas vraiment d'intimité qui permette de se sentir bien, et c'est un peu la proposition avec ce chapiteau, voilà, c'était de dire qu'on crée un lieu, un arbre à palabres, enfin voilà, quelque chose, et puis aussi un signal visible qui fait qu'à chaque fois qu'on crée un événement, nous, à l'ancienne gare, on met toujours ces tentes, ces voiles à l'extérieur comme un signe de pour les habitants ou les gens qui sont juste de passage, leur signaler qu'il se passe quelque chose. Voilà, donc cette expérimentation, c'était donc une permanence, c'était organiser, construire des rencontres publiques. Donc là, on voit que on voit Patrick Bouchain qui était venu, c'était pour l'inauguration. On essaye aussi justement d'interroger l'espace public, et je vous rejoins complètement sur tout ce qui a été dit sur la place de la culture dans la ville. Et c'est vrai que là, par exemple, c'est avec la compagnie Sauf le Dimanche et Émilie Buestel qui est venue troquer avec nous sur le parvis. Et on lit complètement autrement l'espace public quand il s'agit de le parcourir, quand on veut entendre quelque chose, on veut entendre de la musique, quand on voit Émilie qui s'en va très très loin. Mais qui reste connecté à ce qui se passe sur le parvis. Voilà, on relit tout ça différemment. Et c'était vraiment une expérience riche. Donc ça, c'est la machine à café que j'ai achetée. On crée aussi des moments de rencontre. Là, c'était une conférence de Sophie Ricard. Et c'était tout spécialement dédié à des étudiants de master de l'école d'architecture de Montpellier, mais c'était ouvert à tous, donc il y avait aussi d'autres personnes que les étudiants qui étaient dans le public. Et c'est vraiment aussi tout l'enjeu pour nous d'investir ce parvis, c'est en plus de rendre accessible au plus grand nombre, mais c'était aussi de rendre accessible à l'impromptu. On a vu beaucoup de gens qui passaient prendre leur train, puis le train avait du retard ou eux avaient d'avance, et puis finalement ils s'arrêtaient, ils écoutaient, ils s'asseyaient. Et c'est vrai que c'est toujours très riche ce genre de partage. On parlait aussi de réseauter tout à l'heure, mais je suis vraiment d'accord avec tout ce que vous avez dit, c'est désœuvrant, mais c'est comme ça. Là, en l'occurrence, on a, pour plein de raisons différentes que je ne vais pas énumérer ce soir, mais on a décidé d'aller partager un peu des expériences avec le GR 2013, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, donc un collectif qui s'est monté pour la capitale européenne de la culture de Marseille en 2013. Et le principe que je trouve assez génial, c'est de dire qu'ils ont créé un GR, qui est labellisé GR, le GR 2013, qui fait 365 km, qui fait un grand 8, et qui est une espèce de... On pourrait dire un tiers-lieu, justement. C'est un espace public ouvert, non construit, non bâti, qui met en relation des villes, des endroits, des gens qui parlent de nature et de culture et qu'on peut parcourir par petits bouts, aller juste à un endroit. Et on s'est dit que c'était intéressant de partager notre expérimentation de l'ancienne gare avec ce que faisait, là c'était Alexandre Field qui nous recevait à Marseille. Et donc on a emmené quelques-uns de nos partenaires comme la SNCF, la Fondation de France, la Preuve par 7, et on a cheminé ensemble sur des problématiques. Ça c'était bon, c'est vraiment un clin d'œil. C'était qu'on a été visité en Brossomme, on s'est rendu compte, en fait on a dans notre prise en main du bâtiment, dans cette volonté de comprendre le lieu et de comprendre les particularités, les singularités de Lunel et de ce lieu de l'ancienne gare, on s'est rendu compte effectivement donc, que la Via Domitia passait juste à côté, et quand on était la visiter, donc ça c'est les traces des roues, des chars d'époque sur les pavés, et que l'écartement des roues, des chars 1m44, c'est le même écartement que les rails d'un train, puisqu'en fait, c'est l'écartement nécessaire à deux chevaux attelés de galoper côte à côte sans s'entraver. Et je trouve ça assez fantastique d'imaginer qu'on puisse mettre un char romain sur des rails français, parce que finalement, en Espagne, ils ont changé l'écartement pour éviter que les Français les envahissent. Mais finalement, dans beaucoup d'endroits encore en Europe, et en tout cas en France, l'écartement d'1m44 est toujours d'actualité. Donc cette espèce aussi de, quand on dit qu'on travaille avec le déjà-là, voilà, le déjà-là, parfois, il est là depuis longtemps. Le réseau, c'est aussi aller se nourrir auprès de la Preuve par 7. La Preuve par 7, l'avantage colossal de ce dispositif, et si ça vous intéresse, on pourra en parler dans les questions après, mais c'est que d'une part, c'est un dispositif qui est porté, soutenu par le ministère de la Cohésion des Territoires et par le ministère de la Culture et par la Fondation de France. Ce qui, je trouve, à l'échelle locale, quand on parle à des collectivités qui ne sont pas toujours aguerries à ces notions-là, ça nous donne une certaine légitimité déjà. Et surtout, comme la Preuve par 7 accompagne différents projets expérimentaux de ce type sur le territoire national, ça nous permet de nous retrouver régulièrement, nous, les permanents, et d'échanger sur les différentes pratiques et les enjeux. Donc c'est, encore une fois, du réseautage, mais plus... voilà. Ça nous permet de rencontrer des cheminots, évidemment. Moi, j'ai demandé d'avoir une casquette et un gilet à la fin de la permanence, parce que je commence à bien, bien connaître le monde de cheminots. Et là, c'était Monsieur Girard, ancien cheminot, qui nous montrait, il avait gardé sa lanterne et son truc pour faire passer les trains. Donc, une exposition qu'on avait faite sur l'espace public pour parler des singularités de Lunel, puisque, en plus de l'histoire de l'ancienne gare, on s'était rendu compte que Lunel avait vraiment des pépites qui étaient... peu connu, en tout cas c'était pas forcément ce qu'on entendait ou ce qu'on voyait être mis en avant quand on lisait des choses sur Lunel avant d'y aller. Et il y a vraiment des histoires qui sont incroyables, je trouve, sur la constitution de Lunel, l'histoire de Lunel, notamment là on peut voir donc l'histoire du canal, ou enfin des grands tracés, et puis aussi les histoires des Juifs de Lunel qui en fait quand ils ont fui l'Espagne au 11e et 12e siècle, ils se sont réfugiés dans des villes du sud de la France, et notamment l'école de médecine de Montpellier n'est pas née à Montpellier, mais elle est née à Lunel, et ça se sait peu. Mais il y a aussi Jean-Baptiste Hugo, arrière-petit-fils de Victor Hugo, qui habite là-bas et qui continue de faire vivre l'œuvre de son ancêtre et de son père Jean Hugo, qui était peintre. Voilà, dans l'expérimentation des usages, ça permet aussi d'interroger, voilà, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de café à côté de la gare et c'est quand même, voilà, on a pas mal de jeunes, comme on est à l'interface, encore une fois, entre Lunel Nord et Lunel Sud, il y a pas mal de lycéens. En fait, il y a des lycées dans le nord et dans le sud de la ville. Donc parfois, ils étaient au collège ensemble, ils sont séparés au lycée, ils ne savent pas où déjeuner, donc ils viennent déjeuner à l'ancienne gare. Et puis, bon, une fois qu'on en avait 10 qui venaient déjeuner tous les jours d'hiver dans la salle, on a fait venir un food truck pour se dire, bon, est-ce que si, par exemple, il y a un food truck qui vient, est-ce que ça intéresse les gens, est-ce que ça suffit à... Donc c'est un peu la force de l'expérimentation, c'est que on essaye des choses, on voit, ça prend pas, ça marche, mais voilà, c'est vraiment à géométrie variable et c'est tout à fait incrémentaliste et Lucien Crawliste dans la démarche. On a aussi hébergé des expositions d'art dans les locaux, on héberge des ateliers de formation. Et on organise des événements de rencontres. Monsieur Santa Cruz, alors ça c'est une super rencontre justement, c'est un monsieur lunellois à la retraite, très isolé, complètement désœuvré et qui nous a identifié comme un des lieux ressources. En fait, la journée il marche et puis il s'arrête là où quelqu'un est prêt à l'écouter. Donc voilà, et puis là il était venu nous lire du Joseph Kessel. Bon, ça fait partie des moments où on sait pourquoi on fait ce qu'on fait. On s'entraînerait pas mal aussi pendant les vacances. On a un peu tous les enfants du quartier qui viennent jouer dans l'ancienne gare. Avec là, notamment, le petit gamin avec des lunettes derrière s'appelle Jihad. Ça s'invente pas. Et ce qui était très mignon, c'est qu'on préparait l'impromptu où Julien Guille est venu donner une brève de Victor Hugo sur le parvis. Et il me voyait écrire impromptu, il savait pas ce que ça voulait dire, donc je lui explique. Je lui ai fait écouter Schubert parce que quand même, les impromptus, il fallait entendre Schubert. Il est venu aux impromptus, il a écouté la brève de Victor Hugo. Alors voilà, à notre échelle aussi, on essaye de participer à une sorte d'éveil ou une sorte de lien, en tout cas, du lien social. Pour reciter Patrick Bouchain, il dit beaucoup que l'architecture, c'est la mise en relation. Et c'est vraiment ce qu'on vit, nous, en tout cas, ce qu'on a vécu pendant cette année-là, c'est la mise en relation. Julien Guille, le parcours. On a réussi à faire danser une centaine de lunellois avec la compagnie Autromina, qui était venue faire une performance pour le lancement de sa résidence à Lunel. Et les étudiants, les lycéens du lycée Victor Hugo en option théâtre qui venaient donner une représentation aussi. Donc pour finir, je suis allée assez rapidement, on pourra revenir sur les points qui vous intéressent. Mais ce que ça faisait remonter comme réflexion, c'était qu'effectivement, l'hospitalité, pour moi, ça passe... aussi, donc ça passe par la connaissance. On ne peut pas accueillir quelqu'un si on n'est pas soi-même chez soi. Donc c'est vrai que typiquement, dans ce type de travail expérimental, la permanence est nécessaire. Si on n'est pas chez soi, on ne peut pas accueillir qui que ce soit. Il faut effectivement permettre, il me semble, l'appropriation. Donc ça veut dire ne pas être figé sur des usages. Et c'est là aussi on se porte en faux par rapport à la commande classique, où finalement on ne définit pas un programme a priori, mais le programme, on le construit a posteriori, après avoir expérimenté des choses et des usages, après avoir écouté, après avoir identifié les besoins. Et c'est ça qui nous permet d'avancer. Et l'idée, c'est que ça reste ouvert et évolutif tout le temps. Que je vous rejoins complètement tous les deux sur ces notions aussi. Nous, on appelle ça le cadre de réciprocité, mais effectivement, que c'est pas parce que c'est un espace public ou c'est pas parce que c'est un espace qui est gratuit ou qui est accessible à tous qu'on doit pas en prendre soin. Il y a des règles, il y a des chartes, enfin il y a des guides. Enfin, on dit ça comme on veut, mais c'est vrai que assez rapidement, nous, on est rentré dans cette démarche là d'expliquer que voilà, c'était important de prendre conscience que réhabiliter un lieu, c'est en prendre soin. Et en prendre soin, c'est révéler son histoire parfois illustre. C'est ne pas faire une tabula rasa de tout ce qu'il a connu. C'est ça veut dire qu'il faut que j'arrête. J'ai fini. Non mais. Ou peut-être la dernière phrase, si vous me le permettez, c'était simplement la conclusion que j'en ai tirée moi au bout d'un an d'expérimentation et de cette permanence à l'ancienne gare, c'est de considérer l'hospitalité comme un besoin vital à l'évolution de société. Qu'effectivement, je vois pas comment on peut faire sans ça, mais qu'effectivement, pour pouvoir permettre l'hospitalité, il faut quand même quelques préambules.
C'était l'enregistrement intégral de la première rencontre intitulée « Demain l'espace public hospitalier ». Dans le cadre de « Demain l'espace public », cycle de rencontres proposé à Montpellier par la Maison de l'architecture Occitanie-Méditerranée, l'ASAT, zone artistique temporaire, et Transat, programme d'urbanisme culturel. Nous vous suggérons d'écouter les deux entretiens consacrés, l'un à Chantal Decmine, architecte, l'autre à Mathilde Tournol-Duclos, également architecte, les deux invités de cette rencontre. Ce programme est financé dans le cadre de Montpellier, capitale européenne de la culture.